Bienvenue au podcast de Sacmel Elliott sur les mises à jour en droit de l'emploi canadien. Mon nom est Patrick Estimini, chef du groupe Emploi et Travail au bureau de Montréal de Sacmel Elliott. Et aujourd'hui, j'accueille mes collègues Aurélie Dorigo-Choquette, avocate au sein du groupe Emploi et Travail, ainsi que Romy Pro, avocate au sein du groupe Litige, toutes les deux du bureau de Montréal. Bonjour Aurélie, bonjour Romy.
Bonjour Patrick.
Bonjour Patrick.
Aujourd'hui, on va discuter de la charte de la langue française, qui, comme on le sait tous, a fait couler beaucoup d'encre depuis quelques mois. La charte a été amendée récemment par le projet de loi 96, adopté le 1er juin 2022. Dans un premier temps, je discuterai avec Aurélie des obligations imposées en ce qui concerne la langue de travail et le processus de francisation des entreprises, puis, dans un second temps, j'aborderai avec Romy certains enjeux touchant la conduite des affaires d'une entreprise telles que la langue des contrats, l'étiquetage des produits et l'affichage commercial. Je veux aussi vous souligner que ce podcast sera disponible en anglais et que mon associé Stéphanie Washler fera les entrevues pour le podcast en anglais sur le même sujet. Alors Aurélie, on va commencer avec toi. Pourrais-tu nous donner un petit peu de contexte par rapport à la loi 96 en lien avec la Charte de la langue française? Parce que lorsqu'on lisait les journaux, ça avait l'air d'être une nouvelle loi qui venait d'apparaître au Québec.
Certainement. La Charte de la langue française a été adoptée en 1977, donc il y a près de 50 ans, par l'Assemblée nationale du Québec. Depuis son adoption, il y a de nombreuses dispositions de la Charte qui ont été invalidées par les cours de justice, notamment des dispositions relatives à la langue d'affichage, les marques de commerce, la langue d'enseignement dans les écoles primaires et la langue de la législation et des procès judiciaires. Mais comme tu l'as mentionné, plus récemment, le 24 mai 2022, l'Assemblée nationale du Québec a adopté le projet de loi 96 qui est venu modifier la Charte de la langue française. La majorité des modifications prévues par ce projet de loi 96 sont entrées en vigueur le 1er juin 2022, alors que certaines autres modifications sont encore à venir. Telle qu'amendée, la Charte énonce notamment que le français est la seule langue officielle du Québec et que le français est la seule langue commune de la nation québécoise.
Aurélie, merci pour ce contexte et cette introduction, parce qu'elle est importante pour comprendre un petit peu les enjeux historiques de cette loi. Donc, depuis que la loi a été amendée par l'adoption du projet de loi 96, beaucoup d'entreprises viennent chercher des conseils chez nous pour mieux comprendre leurs obligations en ce qui a trait aux documents écrits qu'ils envoient à leur personnel québécois. Est-ce que tu pourrais nous éclairer sur ce sujet?
Oui, donc la charte telle qu'amendée par le projet de loi 96 prévoit explicitement que les employeurs doivent rédiger en français ou en français et dans une autre langue les formulaires de demande d'emploi, les documents ayant attrait aux conditions d'emploi, ce qui inclut par exemple les documents concernant la rémunération, les avantages sociaux, les pensions, les vacances annuelles et toutes les autres règles et politiques de l'employeur, ainsi que les documents de formation qui sont produits à l'intention du personnel québécois. Ça veut donc dire que tous ces documents doivent être disponibles aux employés québécois dans leur version française. Par ailleurs, un employé doit pouvoir accéder à la version française aussi facilement qu'à la version dans une autre langue, le cas échéant. La charte prévoit par ailleurs clairement qu'un employeur doit utiliser le français dans ses communications écrites qui sont adressées à un groupe d'employés ou à un employé en particulier, incluant les communications qui vont suivre la fin d'un lien d'emploi. À noter cependant que si un employé fait la demande express qu'on lui communique par écrit dans une langue autre que le français, par exemple l'anglais, l'employeur pourra dès lors communiquer avec l'employé en anglais. C'est donc dire que de manière générale, lorsqu'un employeur, que ce soit par ses gestionnaires, ses ressources humaines ou par un superviseur, s'adresse à un employé en particulier ou à un groupe d'employés québécois, il doit rédiger ses communications écrites en français ou en version bilingue, français et anglais. La charte ne vient pas préciser si toutes les communications écrites, peu importe leur contenu, sont couvertes par cette obligation. Par contre, il semblerait possible que le fait d'omettre de fournir en français une communication qui concerne un aspect essentiel de la relation d'emploi aux employés soit peut-être considéré comme une atteinte plus importante et sérieuse aux droits linguistiques des employés que d'omettre de fournir une communication écrite plus triviale dans ta version en français. Par exemple, une communication qui souhaiterait de joyeuses fêtes aux employés.
Merci, Aurélie. Quoique pour certaines personnes, joyeuses fêtes pourrait être un élément important.
Oui, clairement.
Bon, je comprends que ces obligations concernent de façon spécifique ce qu'on va appeler les documents écrits ou les communications écrites. Parlons un petit peu de ce qu'il en est pour ce qui est des communications verbales.
La charte, telle qu'amendée, ne prévoit aucune obligation formelle ou spécifique en ce qui concerne les communications verbales aux employés. Par contre, la charte protège de manière générale le droit de tous les employés d'exercer leurs activités en français. Par ailleurs, comme je vais l'expliquer plus en détail un peu plus tard, un employeur ne peut pas exiger qu'une personne ait une connaissance d'une autre langue que le français, par exemple l'anglais, pour qu'elle demeure ou obtienne un poste au Québec, à moins que cela soit considéré comme étant nécessaire pour accomplir les tâches de son poste. C'est donc dire que, sauf exception, un employé québécois doit pouvoir travailler en français sans devoir utiliser une autre langue. Ainsi, un employeur aurait l'obligation de communiquer verbalement en français et non en anglais ou autre à un employé qui ne parle que le français ou qui préfère qu'on lui communique verbalement en français. Par contre, si un employé est à l'aise en anglais et communique lui-même à ses collègues en anglais, la charte ne semblerait pas empêcher un gestionnaire de communiquer verbalement avec cet employé en anglais. Bref, malgré l'absence de règles spécifiques en ce qui concerne les communications verbales, il demeure clair qu'un employé devrait respecter la préférence linguistique d'un employé québécois à ce qu'on lui communique en français. Il importe de préciser aussi que la charte n'impose aucune obligation à ce que deux employés communiquent entre eux en français, que ce soit à la cafétéria ou lors de rencontres d'équipe ou autre.
Excellent. Je pense que ta réponse vient quand même adresser certaines inquiétudes qu'on avait vues parmi nos clients et parmi les employeurs québécois généralement.
Oui.
Maintenant, on sait que dans une relation d'emploi, on est constamment en train de préparer, d'échanger et de signer des documents contractuels. On peut penser par exemple à des offres d'emploi, à des contrats de travail, à des documents de fin d'emploi par exemple. Alors, peut-être parlons un petit peu des obligations linguistiques imposées par la charte quand on parle de documents écrits de nature contractuelle.
Oui. Donc, de manière générale, un contrat individuel de travail doit être conclu en français pour qu'un employé québécois y soit lié en vertu de la charte. L'objectif de cette protection de la charte est vraiment de s'assurer que les employés francophones comprennent réellement les contrats de travail qu'ils vont signer. La charte ne prévoit que seulement deux exceptions à cette obligation. Première exception, l'employé conclut un contrat en anglais après avoir pris connaissance de sa version identique en français et après avoir consenti expressément à conclure le contrat dans sa version anglaise. Seconde exception, l'employé a pu négocier les termes essentiels du contrat de travail et a expressément ensuite consenti à conclure le contrat dans sa version anglaise. À noter que, selon la jurisprudence actuelle, même si un employé a négocié le montant de son salaire et son boni, le contrat n'est pas nécessairement considéré comme ayant été négocié lorsque les autres éléments essentiels du contrat ont été imposés par l'employeur. Donc, à moins qu'une des deux exceptions que je viens de mentionner ne s'applique, un contrat individuel de travail d'un employé qui est au Québec doit être conclu en français. La charte ne précise pas ce qui est inclus dans l'expression « contrat individuel de travail », mais cela pourrait inclure tout contrat d'emploi typique, toute entente d'option d'achat d'actions, entente de rémunération, de boni, entente de fin d'emploi, quittance de fin d'emploi, etc., qui est conclue entre un employeur et un employé individuel. Ça veut donc dire, par exemple, que depuis le 1er juin 2022, si un employé signe un contrat de travail en anglais sans avoir été présenté une version en français de ce contrat et que ce contrat inclut des clauses de non-sollicitation et de non-concurrence, l'employé pourrait soulever à l'avenir qui n'est pas en fait lié par ce contrat et donc par les clauses restrictives qui y sont incluses parce qu'il n'avait pas consulté une version en français et ne pouvait pas négocier son contrat. Similairement, si un employé signe une quittance en anglais à la cessation de son emploi en échange d'une indemnité, l'employé pourrait éventuellement soulever qu'il n'est pas lié par la quittance si on ne lui avait pas fourni aussi une version en français de la quittance. C'est donc dire que même si l'employé a signé la quittance, l'employé pourrait, par exemple, faire une plainte pour congédiement sans cause juste et suffisante ou pourrait tenter d'obtenir un montant additionnel à l'indemnité qui avait été convenue dans la quittance. Il faut donc souligner que cette disposition de la charte impose aux employeurs un fardeau de traduction de contrats d'emploi et d'autres types de contrats, surtout considérant que certaines multinationales ou entreprises canadiennes utilisaient habituellement des modèles standards en anglais seulement.
Donc, on voit quelle est l'importance de comprendre ces règles pour les contrats de travail, par exemple, puisque ça pourrait même affecter le caractère contraignant de certaines clauses. Donc, un point très, très important. Maintenant, on a parlé beaucoup de la connaissance spécifique d'une langue autre que le français dans le cadre d'un emploi. Et on sait que le Québec, comme tout territoire en Amérique du Nord, est un centre économique qui attire beaucoup d'employeurs, que ce soit des centres de recherche, des centres de développement, des centres d'appel, par exemple, qui desservent différents territoires et qu'il y a une certaine richesse au Québec parce que les gens parlent plusieurs langues. Alors, quand je pense à ça, on sait que la charte prévoit qu'un employeur ne peut pas exiger la connaissance spécifique d'une langue autre que le français pour qu'un individu accède ou reste en poste, à moins que cette connaissance soit nécessaire pour accomplir les tâches de ce poste. Comment fait un employeur, par exemple, qui a un centre d'appel qui dessert toute l'Amérique du Nord ou l'Amérique du Sud, pour démontrer que la connaissance de cette autre langue ou de ces autres langues pourrait être requise?
La charte prévoit que l'employeur doit prouver qu'il a pris tous les moyens raisonnables pour éviter de devoir imposer une exigence d'une autre langue que le français. La charte prévoit, pour ce faire, que l'employeur doit remplir les trois conditions suivantes. Premièrement, l'employeur doit avoir évalué les besoins linguistiques réels qui sont associés aux tâches à accomplir. Par exemple, dans ton exemple de centre d'appel qui communique avec plusieurs clients partout dans le monde, l'employeur serait justifié d'avoir certains employés dans son centre d'appel qui sont capables de communiquer et de travailler en anglais ou dans d'autres langues auprès de cette clientèle. Le deuxième critère que la charte énonce, c'est que l'employeur doit s'être assuré que les connaissances linguistiques qui sont déjà exigées des autres membres du personnel sont insuffisantes pour l'accomplissement des tâches de ce poste. Suivant le même exemple, l'employeur doit se demander s'il n'emploie pas déjà d'autres employés qui répondent au téléphone qui ont la connaissance requise de l'anglais et des autres langues pour travailler auprès de cette clientèle internationale. L'employeur n'est évidemment pas tenu de se demander s'il n'a pas, par exemple, des adjoints ou des gestionnaires qui parlent déjà anglais, puisque ce n'est pas les mêmes postes et ce n'est pas les mêmes tâches qui sont requises. Le dernier critère que l'employeur doit respecter, c'est que l'employeur doit restreindre le plus possible le nombre de postes auxquels se rattachent les tâches dont l'accomplissement nécessite la connaissance d'une autre langue que le français. C'est donc dire que l'employeur ne pourrait pas exiger que les secrétaires, par exemple, qui ne répondent pas au téléphone ou les adjoints qui ne répondent pas au téléphone connaissent d'autres langues que le français lorsque ce n'est pas requis. La charte précise aussi que l'employeur n'est pas tenu d'effectuer une réorganisation déraisonnable de son entreprise pour satisfaire aux exigences de la charte. Par contre, l'Office de la langue française précise que le fait qu'un employé doive être en contact avec l'anglais ou une autre langue n'est pas suffisant pour justifier que la connaissance de cette autre langue soit nécessaire. Il faut que la fréquence et la complexité de ce contact soient prises en compte. Par ailleurs, selon l'Office, le fait que l'entreprise ait des relations régulières avec l'extérieur du Québec ou que l'entreprise exerce ses activités dans un domaine spécialisé ne justifie pas automatiquement l'obligation pour tous les employés de connaître une autre langue que le français. À noter finalement par rapport à ce point que la charte prévoit qu'un employeur doit indiquer dans l'offre d'emploi du poste, par exemple sur LinkedIn ou autre, les motifs qui vont justifier cette exigence linguistique. Nous recommandons d'ailleurs souvent à nos clients d'indiquer des raisons concrètes qui vont justifier la nécessité pour le candidat au poste de maîtriser, par exemple, l'anglais, en indiquant le pourcentage approximatif de clients, de fournisseurs, de collègues qui sont situés à l'extérieur du Québec ou qui sont unilingues anglophones, avec lesquels le futur employé sera appelé à collaborer ou à communiquer.
Merci Aurélie. Plusieurs clients viennent aussi nous consulter par rapport au processus de francisation lui-même, parce que c'est un élément qui est important et qui généralement requiert une interaction avec l'Office québécois de la langue française et certaines étapes importantes. Alors, pourrais-tu, s'il te plaît, détailler ce processus un petit peu pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui?
Donc, la charte prévoit actuellement que les entreprises qui ont 50 employés ou plus au Québec durant une période de 6 mois doivent s'enregistrer auprès de l'Office dans un délai de 6 mois. Une fois que l'Office remet à l'entreprise une attestation d'inscription, l'entreprise doit compléter une analyse de sa situation linguistique et la remettre à l'Office dans un délai de 3 mois. À noter qu'avant le 1er juin 2022, ce délai était de 6 mois. Après avoir reçu cette analyse, l'Office peut soit directement remettre à l'employeur un certificat de francisation si l'Office considère que l'usage du français est généralisé à tous les niveaux de l'entreprise, ou deuxième option, demander que l'employeur établisse dans un délai de 3 mois et non dans un délai de 6 mois comme c'était le cas avant le 1er juin 2022, un programme de francisation afin de généraliser l'usage français au sein de l'entreprise. Le programme de francisation, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un plan où l'entreprise, fortement orientée par l'Office, va déterminer les mesures qu'elle s'engage à prendre dans un certain échéancier pour effectivement généraliser l'usage français au sein de l'entreprise. Les mesures à prendre, telles que recommandées ou même exigées par l'Office, sont souvent déterminés en fonction des lacunes que l'Office aura préalablement identifiées. Une fois que le programme a été approuvé puis implanté à la satisfaction de l'Office, l'Office remet un certificat de francisation à l'entreprise. À noter que même lorsque l'entreprise détient un certificat de francisation, elle doit se mettre à chaque 3 ans à l'Office un rapport concernant l'évolution de l'utilisation du français. À la suite de sa révision du rapport, l'Office considère que l'utilisation du français n'est plus généralisée. L'Office peut demander à l'entreprise d'adopter un plan d'action pour remédier à la situation, et ce, dans un délai de 2 mois. Il est vraiment important de noter que, à partir du 1er juin 2025, les entreprises qui ont 25 à 49 employés au Québec, non seulement 50 et plus, comme c'est le cas actuellement, vont aussi devoir se soumettre aux mêmes obligations de processus de francisation que je viens d'expliquer. Plusieurs petites et moyennes entreprises québécoises ont d'ailleurs exprimé des inquiétudes que cela allait leur imposer un fardeau administratif démesuré, surtout considérant qu'ils ont souvent moins de ressources que les plus grandes entreprises.
C'est vrai, Aurélie, et c'est vrai que les amendements de la loi 96 à la charte ont causé beaucoup d'inquiétudes et d'anxiété chez certains de nos clients et, de façon générale, chez certains employeurs. Et évidemment, une des questions qui était soulevée souvent était par rapport aux aspects un petit peu punitifs prévus par la charte et par notamment les amendements de la loi 96. Avant de te demander de les expliquer un petit peu, on doit quand même rappeler aux employeurs à qui on parle que, de façon générale, l'Office québécois de la langue française a une approche qui est quand même coopérative. Une fois qu'un employeur embarque dans un processus où il y a des mises à jour, où il y a certains aspects de conformité, les interactions ne sont pas des interactions qui sont dangereuses ou qui créent de l'anxiété, ce sont plutôt des interactions qui vont être coopératives. Et ça, je pense que c'est un point important que nous, on peut confirmer par nos échanges. Mais il est clair que la loi contient quand même des amendes et contient quand même quelques sanctions qui, on va le dire clairement, vont généralement s'appliquer lorsque le processus coopératif ne va pas fonctionner et qu'il y aura soit un désaccord important sur un aspect de la loi ou lorsqu'il y aura carrément un refus de se conformer. Alors peut-être tu peux parler un petit peu de ça avant qu'on passe évidemment à Romy sur les autres aspects de notre podcast d'aujourd'hui.
Exact, oui. Donc la charte en ce moment, elle prévoit, sauf certaines exceptions assez limitées, qu'une entreprise est passible d'une amende uniquement soit lorsqu'elle entrave, trompe ou refuse de fournir un renseignement ou document à l'Office, ou soit lorsqu'elle contrevient à une ordonnance qui a été préalablement rendue par l'Office à cette entreprise de se conformer ou de cesser de contrevenir à la charte. C'est donc dire qu'une approche collaborative, comme tu l'as mentionné avec l'Office, est réactive à leur demande, permettrait vraiment à une entreprise de ne pas vraiment recevoir d'amende en vertu de la charte. Par contre, il est important de noter que la charte prévoit que l'administration civile du Québec ne peut pas conclure un contrat ou fournir une subvention à une entreprise qui ne respecte pas ses obligations en vertu de la charte. En fonction de la nature de l'entreprise et de son industrie, ces sanctions plutôt administratives peuvent avoir de très lourdes conséquences pour certaines entreprises.
C'est ça. Donc, clairement, si on finit sur la liste des délinquants de l'Office et qu'on a des contrats, ou qu'on ait des subventions, c'est un point qui est important et qui pourrait causer un certain nombre de problèmes.
Oui.
Donc, c'est quelque chose dont il faut se rappeler. Aurélie, je te remercie pour tes réponses très claires.
Merci à toi.
Et qui vont sûrement aider les gens à comprendre la charte et les amendements qui ont été faits récemment. On passe maintenant à Romy, qui va nous parler de certains enjeux commerciaux qui touchent les entreprises qui font affaire au Québec. Romy, je comprends que plusieurs dispositions de la loi amendées par la loi 96 affecte la manière dont les entreprises conduisent leurs activités au Québec, à commencer par la communication avec les clients. Donc là, je précise, on n'est plus avec les employés. On parle maintenant à nos clients. Quelles sont certaines règles par rapport aux clients?
Exact. Donc, plusieurs nouvelles dispositions viennent affecter effectivement la communication entre les entreprises et les clients, les entreprises évidemment qui font affaire au Québec. Donc, tout d'abord, le projet de loi 96 vient codifier l'obligation des entreprises qui offrent des biens ou des services au Québec d'informer et de servir leur clientèle en français. Donc, ça inclut les clients qui sont des consommateurs et également les clients commerciaux. Donc, dire que cet article vise autant le droit d'un consommateur, personne physique, qui entre dans un commerce pour s'acheter un bien d'être servi en français que celui d'une entreprise québécoise qui fait affaire, par exemple, avec un fournisseur ou avec un grossiste ontarien, d'être servi en français dans le cadre de sa relation contractuelle. Ce principe, qui était par ailleurs déjà énoncé dans la Charte de la langue française avant l'adoption du projet de loi 96, constitue désormais une obligation expresse dont le non-respect est punissable d'une amende en cas de contravention.
Très bien. Donc, on comprend que cette obligation expresse de servir et d'informer le client en français existe, mais qu'en est-il lorsqu'un client choisit d'être servi en anglais ou une autre langue, si c'est possible?
Alors, effectivement, lors des débats parlementaires, pourtant, sur le nouvel article 50.2 de la Charte de la langue française, le ministre de la Justice, Maître Simon Jolin-Barrette, à aborder cette préoccupation qui avait été énoncée notamment par le Conseil québécois du commerce de détail. Donc, le ministre a pris bien soin de mentionner que le client, que ce soit une personne physique ou encore une personne morale, conserve la faculté de choisir la langue dans laquelle il souhaite être servi. Autrement dit, si deux entreprises choisissent de communiquer entre elles en anglais ou en espagnol, elles ne contreviennent pas à cet article. Même chose pour un consommateur qui souhaite être servi et formé en anglais dans un commerce ou un restaurant.
Très bien, donc ça c'est rassurant et merci à Maître Jolin Barrette d'avoir apporté ces précisions pour rassurer nos clients. Maintenant, quand on parle de communication, est-ce qu'on parle bien de communication écrite et communication verbale?
Absolument, donc tant les communications orales et écrites sont couvertes par cet article. En ce qui a trait aux communications écrites, j'aimerais seulement préciser que ça inclut les échanges de courriels en lien avec la prestation de services, par exemple, de même que les infolettres et autres documents de marketing. Donc, ça a quand même une portée assez globale. Par ailleurs, si un client préfère être servi et informé en anglais, c'est plus prudent de conserver une place écrite à l'effet que la personne a effectivement manifesté cette préférence. Cette façon de faire permettrait, en fait, de se prémunir pour une entreprise si jamais un représentant de l'Office québécois de la langue française devait effectuer des vérifications. Cette entreprise sera en mesure de prouver qu'elle se conforme à l'article 50.2 de la Charte et que ce n'est qu'à la demande expresse d'un client qu'elle le sert dans une autre langue que le français. Évidemment, ce dernier point ne s'applique que dans un cas où il s'agit d'une relation contractuelle qui s'étire dans le temps et donc qui n'est pas purement ponctuelle, telle une commande dans un restaurant, par exemple.
Intéressant, même si des fois, dans la vraie vie, on va voir comment ça va s'appliquer. Hein, parce que c'est pas toujours évident de respecter les consignes des avocats dans la vie de tous les jours. Alors maintenant qu'on a parlé des discussions avec les clients, on sait que dans le monde des affaires, il y a des contrats qui sont signés toutes les minutes. On sait que nos clients sont souvent des compagnies étrangères dans d'autres juridictions. Qu'est-ce que les gens devraient savoir sur les règles par rapport à la langue des contrats?
Alors, du côté de la langue des contrats, des changements entreront en vigueur le 1er juin 2023 et ces nouvelles règles s'appliqueront principalement aux contrats d'adhésion et aux contrats de consommation. Donc, tout d'abord, un bref rappel à ce que constitue un contrat d'adhésion, même si vous en avez traité préalablement Aurélie et toi il y a quelques instants. Donc, les contrats d'adhésion sont des contrats dont les principales clauses ont été rédigées par une partie, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas pu être négociées et qu'elles ont été en fait imposées par une partie à l'autre. Les exemples de contrats d'adhésion qui sont affichés sur le site de l'OQLF sont notamment les contrats de travail, les conventions collectives, les contrats d'assurance, les baux et les déclarations de copropriété. Donc, à l'heure actuelle, la Charte de la langue française prévoit, à son article 55, que les contrats d'adhésion, les contrats aux figures des clauses type imprimées et les documents qui s'y rattachent doivent être rédigés en français. Toutefois, la loi prévoit que ces documents peuvent être rédigés dans une autre langue si telle est la volonté expresse des parties. Donc, Patrick, c'est la fameuse clause dite de langue que l'on retrouve à la fin des contrats rédigés en anglais. À partir du 1er juin 2023, cependant, l'insertion de cette clause dans les contrats d'adhésion ou de consommation ne sera plus suffisante. Dorénavant, la nouvelle règle de base obligera une entreprise à présenter une version française du contrat d'adhésion à l'adhérent, c'est-à-dire le consommateur ou encore l'entreprise qui se fait imposer les termes d'un contrat, avant que celui-ci ne choisisse de signer seulement la version anglaise du contrat. Donc, les parties pourront toujours choisir de conclure un contrat d'adhésion en anglais seulement, mais uniquement après avoir eu l'occasion de prendre connaissance de la version française du contrat.
Eh bien, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec les documents qui sont rattachés à ces contrats?
Alors, comme on dit dans le jargon juridique, dans ce cas-ci, l'accessoire va suivre le principal, c'est-à-dire que si les parties choisissent de conclure un contrat d'adhésion ou un contrat aux figures des clauses type exclusivement en anglais, les documents qui s'y rattachent, comme les factures, les reçus, les quittances, pourront être rédigés exclusivement en anglais également. Autrement, il devrait y avoir une version française de ces documents qui se rattachent à ce contrat.
Parfait. Et comme tu sais, nos clients adorent les exceptions. Alors, parlons un petit peu des exceptions à ces règles.
Exact. Pas seulement les clients, les avocats aussi, on aime beaucoup ça, les exceptions. Donc, la règle qui précède ne s'applique pas au contrat d'adhésion suivant si l'adhérent a expressément demandé que le contrat soit rédigé en anglais seulement. Donc, parmi les exceptions, on trouve les contrats d'emprunt, les instruments et les contrats financiers qui ont pour objet la gestion des risques financiers, notamment les conventions d'échange de devises ou de taux d'intérêt, les contrats prévoyant l'achat ou la vente d'une option et les contrats à terme. L'exception vise également les contrats conclus avec une personne ou une entreprise qui exerce les activités d'une chambre de compensation, de même que les contrats conclus sur une plateforme permettant de négocier un instrument dérivé visé par la loi sur les instruments dérivés du Québec, une valeur mobilière visée par la loi sur les valeurs mobilières du Québec ou encore un autre bien meuble pourvu, dans ce cas-ci, qu'il ne s'agisse pas d'un contrat de consommation. également une police d'assurance lorsqu'elle n'a pas d'équivalent en français au Québec et qu'elle remplit l'une des conditions suivantes, donc soit qu'elle provient de l'extérieur du Québec ou encore que son utilisation est peu répandue au Québec. Et finalement, une exception qui va être très intéressante et qu'en fait, on va suivre la manière dont elle va être interprétée, c'est le contrat utilisé dans les relations avec l'extérieur du Québec. Donc, je mentionnais que cette exception applicable au contrat utilisé dans les relations avec l'extérieur du Québec va être très importante pour certaines entreprises qui prennent part à des opérations transfrontalières. Toutefois, sa portée n'est pas encore claire en l'absence d'autres indications de la part du législateur.
Alors, autant on aime les exceptions, autant on n'aime pas les conséquences néfastes lorsqu'on ne respecte pas quelque chose. Alors, quelles sont les conséquences quand on ne respecte pas ces règles-là?
Donc, lorsqu'il y a une version française d'un contrat ne serait pas fournie au préalable ou encore une fois si on ne rentre pas dans une des exceptions que je viens d'énoncer, de manière similaire à ce que vous discutez il y a quelques instants, Aurélie et toi, l'adhérent pourrait demander que le contrat soit annulé puisqu'il n'a pas consulté une version en français et qu'il ne pouvait pas négocier le contrat. Par ailleurs, il n'a pas approuvé que cela lui a causé un préjudice. Donc, il va revenir à la partie co-contractante ou à la partie qui a imposé les termes du contrat de démontrer l'absence d'un tel préjudice pour empêcher l'annulation du contrat. Également, l'adhérent pourrait aussi demander une réduction de ses obligations équivalente aux dommages qu'il a subis suite au fait qu'il n'a pas pu consulter une version française du contrat.
Donc, important qu'on comprenne les règles pour éviter ces conséquences néfastes. Maintenant, on a parlé de contrats commerciaux, on a parlé de contrats entre entreprises avec consommateurs. Qu'en est-il des contrats avec l'administration du Québec?
Donc, la loi prévoit présentement que les contrats conclus par l'administration du Québec, y compris ceux qui s'y rattachent en sous-traitance, sont rédigés dans la langue officielle, donc en français. L'administration, en guillemets, est définie à l'annexe 1 de la Charte et comprend entre autres le gouvernement du Québec et ses organismes gouvernementaux, les sociétés qui appartiennent entièrement au gouvernement, la plupart des municipalités et des organismes scolaires et des organismes du réseau de la santé et des services sociaux. Présentement, il y a une exception à la règle voulant que les contrats de l'administration soient rédigés en français. Donc, les contrats peuvent être rédigés en anglais seulement lorsque l'administration du Québec contracte à l'extérieur du Québec. Cette exception a été reprise dans la nouvelle mouture adoptée par le projet de loi 96, mais en plus de cette exception, à compter du 1er juin 2023, d'autres exceptions entreront en vigueur. Donc, certains contrats de l'administration pourront être rédigés en français et en anglais, notamment les contrats d'emprunt, les instruments et les contrats financiers qui ont pour objet la gestion des risques financiers, certaines ententes internationales et intergouvernementales et les ententes conclues avec les Premières Nations.
Excellent. Merci beaucoup, Romy. Maintenant, on sait que la charte a créé beaucoup de débats autour de l'étiquetage de produits de consommation, que ce soit des produits alimentaires, vestimentaires ou autres. Parlons un petit peu de cette règle-là et des changements que l'on a vus avec le projet de loi 96, qui est maintenant évidemment la loi 96.
Exact. On utilise projet de loi 96 et loi 96 de manière interchangeable dans ce podcast, mais effectivement, la loi 96 est entrée en vigueur en juin 2022. Donc, la règle de base, présentement, en matière d'étiquetage commercial, veut que toute inscription sur un produit, donc sur son contenant, sur son emballage ou encore sur un document ou objet accompagnant ce produit, soit rédigée en français ou en français et dans une autre langue. À l'heure actuelle, également, le règlement sur la langue du commerce et des affaires prévoit toutefois qu'une inscription sur un produit ou sur son emballage peut être rédigée uniquement dans une autre langue que le français, donc uniquement en anglais, s'il s'agit d'une marque de commerce reconnue au sens de la loi sur les marques de commerce. Toutefois, la loi 96 prévoit des nouvelles exigences qui viendront moduler cette dérogation. Les deux nouvelles exigences entreront en vigueur à compter de juin 2025. Donc, premièrement, la loi 96 prévoit que s'il existe une version française correspondante de la marque de commerce en question, la version française devra être utilisée sur le produit et non la version anglaise. Deuxièmement, si un terme générique ou un descriptif du produit est compris dans la marque apparaissant en anglais sur le produit, le terme en question devra figurer en français sur le produit ou sur un support qui s'y rattache de manière permanente. Encore une fois, je vais vous référer, Patrick, au débat parlementaire qui représente la principale source d'information quant à la manière d'interpréter les nouvelles dispositions législatives qui ne sont pas encore entrées en vigueur. Donc alors, au moment de l'adoption du nouvel article 51.1 de la Charte, l'article 51 qui vise l'étiquetage commercial, justement, le ministre a mentionné l'exemple du savon pour les mains Soft Soap. Donc dans ce cas-ci, la marque de commerce reconnue est Soft Soap Brand, Lavender and Shea Butter, Washes Away Bacteria, Deeply Moisturized to Hydrate Skin, Refill, 50 ounces, 1.56 QT, 1.47 liters, Refill over 673 ounces, Use 48 less plastic per ounces, 7.5 ounces pumps. Donc, selon les règles actuelles, puisque cette description est une marque de commerce reconnue au sens de la loi sur les marques de commerce, elle n'a pas à être traduite sur la bouteille de savon pour les mains. Toutefois, selon la nouvelle disposition, toute information fournie après SoftSoap, qui est véritablement la marque de commerce, et c'est ce que le ministre a mentionné dans le débat parlementaire, donc toute information fournie après SoftSoap devra être traduite parce que c'est considéré comme un descriptif. Donc, le but avoué de cette nouvelle disposition est d'éviter que les entreprises contournent les exigences de la loi en intégrant le plus d'informations possible dans leur marque de commerce. Essentiellement, l'objectif est que toute information apparaissant dans une autre langue sur un produit vendu au Québec soit accessible en français également.
C'est très clair comme explication. Merci, Romy. Alors, quelles sont les sanctions si jamais on ne comprend pas aux obligations liées à l'étiquetage des produits de consommation?
Donc, l'OQLF pourrait, par exemple, ordonner à une entreprise qui contrevient aux exigences en matière d'étiquetage commercial de prendre les mesures nécessaires afin de se conformer à la charte. Donc, encore une fois, un peu la visée coopérative à laquelle tu référais un peu plus tôt. Donc, l'OQLF pourrait également, en cas de non-coopération de la part d'une entreprise, ordonner à la compagnie d'arrêter de vendre le produit qui porte l'inscription non conforme ou émettre des amendes. Encore une fois, pour réitérer ton point, dans la majorité des cas, un avis sera envoyé par l'OQLF afin que des mesures soient prises pour rectifier la situation. Et donc, c'est très rare qu'il y ait des amendes ou des mesures injonctives qui vont être prises d'emblée par l'OQLF.
Très bien. On sait qu'il y a quelques années, il y avait eu un gros débat sur l'affichage commercial. Donc, évidemment, le nom des commerces, le nom des magasins. Et ça avait aussi généré beaucoup de débats entre l'Office québécois et certains commerces. Parlons un petit peu de comment est-ce que la loi 96 a amendé les règles par rapport à l'affichage commercial.
Oui, donc de manière similaire aux règles applicables en matière d'étiquetage commercial, les changements apportés par la loi 96 en ce qui a trait à l'affichage public visent l'exception concernant les marques de commerce. Donc, le principe général prévoit qu'au Québec, l'affichage public et la publicité commerciale doivent se faire en français. Ils peuvent également être faits à la fois en français et dans une autre langue pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante. Encore une fois, une dérogation est présentement prévue quant à l'utilisation de marques de commerce reconnues dans une autre langue que le français, tant que la présence du français est suffisante. Donc, la présence suffisante fait notamment référence à un terme générique ou descriptif des produits ou des services visés autour de la marque de commerce. Donc, c'est ce à quoi tu faisais référence tout à l'heure lorsqu'on a parlé de jurisprudence relativement récente. Donc, c'était l'arrêt de la Cour d'appel dans Best Buy. Donc, présentement, suite à Best Buy, il y avait un règlement qui avait été adopté pour la présence suffisante. Donc, c'est pour ça que de nos jours, lorsqu'on voit des magasins comme Winners, on voit en dessous l'inscription mode pour décrire les biens qui sont offerts. Ou un autre exemple que je pourrais nommer, c'est Toys R Us. Donc, maintenant, on voit les jouets Toys R Us dans l'affichage public extérieur. La loi 96 vient modifier la dérogation prévue pour les marques de commerce de deux façons. Donc, tout d'abord, cette dérogation qui permettait aux marques de commerce reconnues, je mets l'emphase sur reconnues, d'une autre langue que le français de figurer sur l'affiche publique visible depuis l'extérieur sera désormais limitée aux marques de commerce qui sont déposées en vertu de la loi sur les marques de commerce fédérales. Donc, avant, c'était reconnu, maintenant, on passe aux marques qui sont déposées ou enregistrées. De plus, le français doit être nettement prédominant sur cet affichage public lorsqu'il contient l'un des éléments suivants, une marque de commerce d'une autre langue que le français ou le nom d'une entreprise qui comporte une expression tirée d'une autre langue que le français. Donc, on passe de la présence suffisante à nettement prédominante.
Et dans un cas encore de non-conformité, on pourrait s'attendre à quoi?
Donc, le QLF pourrait entre autres demander le prononcé d'une injonction visant à ordonner le retrait de l'affichage public qui contrevient à la charte au fait de la partie contrevenante, mais encore une fois, le QLF, on le rappelle, vise beaucoup plus la coopération que des sanctions.
C'est ça. Et je pense que notre expérience, c'est qu'ils vont viser éventuellement une modification de l'affichage pour ajouter un narratif en français avec la marque de commerce.
Exactement.
Et c'est ça qu'on a vu dans les dossiers qu'on a gérés dans les dernières années. Pour conclure, il est sûr que ce qu'on a abordé aujourd'hui, ce sont principalement les questions d'emploi et des questions reliées aux entreprises, donc commerciales. Je veux rappeler à ceux qui nous écoutent qu'il y a beaucoup d'autres enjeux dans la charte. Il y a des enjeux par rapport à l'éducation, au système de santé, à la façon que les tribunaux opèrent au Québec. Donc, il y a beaucoup, beaucoup plus d'enjeux. Le but aujourd'hui n'était pas d'adresser tous les enjeux. Donc, je voulais remercier Romy et Aurélie d'avoir présenté un résumé des obligations et peut-être vous demander de me dire quelques mots de la fin, en commençant par toi, Aurélie. Quels sont certains sujets qu'on va surveiller dans le courant des prochains mois qui pourraient être en mode évolutif?
Oui, donc nous allons certainement surveiller la question à savoir si la charte de la langue française va s'appliquer dorénavant clairement aux entreprises de compétences fédérales, par exemple les banques, les compagnies d'aviation, les entreprises dans les télécommunications, Parce que même si le gouvernement du Québec a récemment affirmé que la charte s'appliquait dorénavant aux entreprises fédérales, il n'est toujours pas clair si le Québec a l'autorité constitutionnelle requise pour faire ça. Donc, la réforme fédérale de la loi sur les langues officielles, qui est actuellement débattue à Ottawa, pourrait permettre de clarifier la question. En effet, il semblerait que le projet de loi C-13 pourrait prévoir soit, un, que les entreprises de compétences fédérales au Québec seront régies obligatoirement par la Charte de la langue française du Québec, ou deux, prévoir que les entreprises de compétences fédérales ont le choix soit d'être soumises à la Charte ou à la loi sur les langues officielles.
C'est vraiment un débat qui va être intéressant à suivre, en sachant évidemment que même les entreprises fédérales considèrent que c'est important de traiter en français avec leurs clients au Québec. Donc, ça sera intéressant de voir comment ça va évoluer. De ton côté, Romy, quelles sont tes attentes et qu'est-ce que tu comptes suivre dans le courant des prochains mois?
Un sujet qui va clairement attirer l'attention, c'est celui, comme je parlais, de l'étiquetage commercial et de l'affichage public. Donc, on attend la publication par le gouvernement du Québec de règlements par rapport à ces nouvelles dispositions-là visant les marques de commerce. Donc, à cet effet, une rencontre a eu lieu au mois de février dernier entre des représentants de l'IPIC, l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada, de l'INTA, l'Association internationale des marques de commerce, et du cabinet du ministre de la langue française. Donc, en résumé, pourquoi est-ce que cette réunion a été intéressante? C'est qu'elle avait pour but de discuter des problèmes de mise en œuvre du projet de loi 96 et son impact sur les propriétaires de marques qui font des affaires au Québec. Au cours de la réunion, le cabinet a confirmé que la rédaction des règlements n'avait pas encore commencé en ce qui concerne les articles 51.1, qui vise l'étiquetage des produits, et 58.1, qui vise l'affichage public. L'IPIC et l'INTA ont soulevé un certain nombre de questions et de préoccupations, en particulier en ce qui concerne l'article 51.1, soulignant le fait que les entreprises ont besoin de toute urgence de plus de clarté pour être en mesure de se conformer au projet de loi 96. Bien qu'aucun engagement concret n'ait été reçu, le cabinet du ministre a accepté de maintenir les lignes de communication ouvertes et de poursuivre les discussions. Donc, cette question de la réglementation applicable en matière d'étiquetage commercial et d'affichage public reste en suspens et on suivra les développements avec attention.
Merci Romy et merci à tous ceux qui se sont joints à nous pour ce podcast et on espère vous revoir bientôt avec un autre sujet intéressant.
Merci.